le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Eau de jouvence, élixir de vie. Fleur d'immortalité, pierre philosophale. Depuis la nuit des temps, les récits portés par l'humanité brassent et rebrassent cette question fondamentale, fondatrice, parcourue de notre angoisse la plus profonde. Comment échapper à la mort ? Depuis qu'il a conscience de sa propre finitude, l'homme chante, écrit, crée, enfante pour laisser une trace, pour ne pas disparaître, ne pas mourir tout à fait. Il cherche, invente, ritualise, symbolise, trouve ses formules, croyances, baume aux peurs, pour nourrir l'espoir de vivre toujours. Cet homme-là ne voulait pas mourir. Il savait que ça arriverait un jour, hein, mais il le refusait de tout son être. Il observait, il se disait « je ne vais pas perdre mon temps dans cette vie à apprendre, à trimer, je vais plutôt chercher, je suis sûre que je peux trouver un pays où on ne meurt pas, je suis sûre qu'il existe quelque part, un endroit pour la vie éternelle. » Alors il se met à marcher sur tous les chemins du monde à la recherche de ce pays, ça existe forcément. Et à chaque fois qu'il arrive dans un nouveau pays, il demande aux habitants « est-ce bien ici que les gens ne meurent pas ? Est-ce qu'ils meurent ou est-ce qu'ils vivent pour toujours ici ? Est-ce que c'est ici le pays de l'immortalité ?» Et chaque fois, on lui répond. Enfin, bien sûr qu'on meurt. Comme partout dans le monde, c'est comme ça, là. La mort fait partie de la vie. Alors à chaque fois, l'homme reprend sa route. Inlassablement. Et au fil de sa quête, il apprend. Hein. Il visite beaucoup de pays. Il apprend des langues, des chansons, des contes. Et il ne s'arrête pas, parce qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche. Et de son côté, la mort, elle le suit. Discrètement, du coin de l'œil, elle le guette. La mort, elle sait que ce n'est pas encore son moment, mais qu'un jour, comme tout un chacun, il sera à elle. Et un jour, le jeune homme, à force de marcher, rentre dans une immense forêt. Là, il trouve un très vieil homme en train de couper un arbre. Alors, il s'approche. L'homme relève la tête. Il est vieux, mais qu'est-ce qu'il est vieux ? Et pourtant, ses yeux pétillent encore de vie. Alors, le cœur battant, le jeune homme demande « Est-ce que c'est ici que les gens ne meurent pas ? Est-ce qu'ici, les gens meurent ou est-ce qu'ils vivent pour toujours ? Enfin, jeune homme. » Je ne sais pas si un tel pays existe. Hein. Moi, la seule chose que je sais, c'est que ma tâche sur cette terre et dans cette vie est de réduire tous les arbres de cette forêt en morceaux, pas plus longs qu'une allumette. Et pour ça, je vivrai autant qu'il me sera nécessaire. Et puis quand j'aurai fini, mon temps sera fini et je mourrai comme tout un chacun. Mais si tu veux, tu peux rester avec moi. Tu m'aideras, puis comme ça, tu vivras autant que moi. L'homme regarde la forêt. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbres, il faudra beaucoup de temps, peut-être 300 ans, mais au bout de 300 ans, le vieillard aura fini son travail, sûr comme la mort ? Non ? Non, non, merci, je préfère continuer à chercher. Et le jeune homme, plus si jeune à force de marcher, cherche encore longtemps. Il arrive jusqu'à une montagne tellement haute qu'elle cache le soleil. Et devant lui, un vieil homme se tient plus ridé que le précédent, avec le même éclat dans les yeux, et il tient une brouette. Et pierre par pierre dans la brouette, il déplace toute la montagne, caillou après caillou, juste pour que le soleil puisse percer, briller dans la vallée. C'est sa tâche. C'est celle qu'il doit accomplir dans cette vie, et même si ça doit prendre 500 ans, ce temps finira un jour. Alors le jeune homme repart. Il continue longtemps, de moins en moins jeune, longtemps, arrive devant un océan, peut-être le bout du monde, et dans le sable de la plage, il y a un vieillard plus vieux que les deux précédents, et lui avec une petite cuillère en argent, il est en train de vider la mer, c'est sa tâche à lui. Peut-être que ça lui demandera 1000 ans pour finir ce travail, mais 1000 ans, c'est toujours moins que pour toujours. Alors, notre homme part encore, vraiment plus si jeune qu'avant, mais sûr dans son cœur qu'il approche du but, il marche, marche encore, arrive enfin à ce qu'il pense être le bout du monde, et là, devant lui, se dresse un château de cristal, il court vers le château, il frappe à la porte, il est arrivé, c'est sûr, une femme au visage sans âge, avec dans les yeux quelque chose qui raconterait toutes les vies du monde, lui ouvre. « Excusez-moi, je cherche le pays où on ne meurt jamais. Est-ce que je suis arrivée? Est-ce le château de l'immortalité ?»« Oui, » répond la femme. « Entre, je t'attendais. » Et la porte se referme derrière lui. Il avait raison, ça existe donc. Il a cherché pendant toute une vie, pendant des années, voilà. Ça y est, il a gagné contre la mort. Sa nouvelle vie commence. Avec la femme du château, ils se trouvent bien ensemble et coulent des jours heureux. Ils savourent la vie, toute de douceur et de joie. Il sait que cette vie-là ne finira pas. Il savoure chaque aube, chaque chant d'oiseau, chaque fruit, chaque pas qu'il fait dans le jardin, dans les vergers. Il savoure le temps qui ne passe pas. Il ne mourra pas. Il vivra toujours. Il vivra éternellement. Et l'éternité, c'est long, surtout à la fin. L'homme commence à ressasser, il pense de plus en plus souvent au pays qu'il a parcouru, aux gens qu'il a rencontrés, à sa famille, ses amis qu'il a quittés il y a si longtemps. Il veut revoir son village. C'est impossible. Ici, le temps ne passe pas, mais chez toi, tous ceux que tu as connus sont morts depuis très longtemps. Il faut que tu les oublies, mais... je ne peux pas. Alors dans ce cas, je vais te confier un cheval. C'est un cheval qui court très vite. Il peut aller de partout dans le monde. Il pourra t'emmener dans ton village. Tu pourras même faire l'aller-retour en un seul jour, si tu veux. Mais surtout, surtout, promets-moi une chose. Ne descends jamais. Si ton pied seulement frôle le sol, alors le cheval disparaîtra et toi, tu ne pourras plus rentrer, d'accord? Promis. C'est vrai que le cheval court vite. Il traverse un désert où jadis se trouvait un océan. Il passe un souvenir de montagne où perce le soleil. Il traverse une prairie qui, jadis, fut une forêt. Et le cheval ralentit au faubourg d'une ville. Il la connaît, cette ville. Et il ne la reconnaît pas. Rien de ce dont il se souvient n'est là devant ses yeux. Les gens sont différents. Il cherche, il demande où est son quartier, sa maison, sa famille, ses amis, mais personne ici ne connaît rien. Il cherche encore, demande à des enfants qui sont en train de jouer dans la rue et tous secouent la tête, non. Et puis il y en a un qui s'écrie, moi je sais. L'homme dont tu parles, je le connais. Il est parti un jour chercher le pays où on ne meurt jamais, puis il n'est jamais revenu. Ça, c'est une histoire que ma grand-mère m'a racontée. C'est sa grand-mère qui lui a raconté, puis je crois que c'est la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère, enfin bref, on raconte ça de grand-mère en grand-mère depuis très très longtemps. Et l'homme comprend qu'il n'a plus rien à faire ici, qu'il ne reverra jamais les gens qu'il connaissait. Sa femme avait raison maintenant, il n'a plus qu'à retourner son cheval pour rentrer dans son château, retrouver sa femme qui lui manque déjà et vivre son éternité. Et le cheval galope et le jour décline. Il galope dans la prairie, filant devant la montagne et dans le désert. Et le soleil se couche, la première étoile apparaît dans le ciel, encore clair. Mais là, le cheval s'arrête d'un coup, il ne peut plus avancer. Et dans la pénombre, l'homme voit que son chemin est bloqué par une montagne de chaussures. Des chaussures très abîmées, tombées d'une charrette renversée, tirée par une très vieille femme. Et la vieille essaie de redresser la charrette. « Madame, s'il vous plaît, poussez-vous, laissez passer mon cheval, j'ai pas le temps. »« Oh, jeune homme, c'est bien que tu sois là, j'ai été maladroite, la charrette est tellement lourde pour moi. Bah, laisse-moi le temps de ramasser toutes ces chaussures et puis tu pourras passer. »« Je vous dis que je suis pressée. »« Alors viens m'aider, je suis qu'une pauvre vieille, puis toi t'es jeune et fort, comme ça tu pourras repartir plus vite. » Et l'homme, dans sa précipitation, oublie l'avertissement de sa femme. Il descend et dès que son pied frôle le sol, le cheval disparaît, la femme se redresse. Elle n'est pas si vieille que ça, la femme, et pas si frêle non plus. Elle est grande, couverte par un large manteau noir et ses yeux brillent comme une lame. Tu me reconnais maintenant? C'est moi, je suis la mort. Bon sang, quand ton moment est venu, je t'ai cherché partout. Longtemps, je t'ai pas trouvé, t'étais où? Tu les vois, toutes ces chaussures? Et toutes les chaussures que j'ai usées en te courant après sans te trouver, maintenant t'es à moi. S'il te plaît, la mort. M'emporte pas tout de suite, laisse-moi regarder les étoiles une dernière fois. La mort ne répond pas. Le ciel est maintenant noir, noir de nuit, les étoiles brillent de toute leur intensité. Et pendant que l'homme regarde les étoiles, son visage se couvre de rides, ses cheveux blanchissent, se détachent de sa tête et tombent. Et lui, il s'accroche aux étoiles, il regarde, son corps se dessèche, sa peau colle à ses os. Ses muscles deviennent flasques et ne tiennent plus, il tombe, ses os craquent, se cassent en mille morceaux. Il regarde encore, s'accroche aux étoiles et ce qui reste de son corps finit par devenir poussière. Le vent l'emporte, mais lui, il continue de regarder les étoiles. Il regarde toujours les étoiles, et les étoiles disparaissent, il fait noir, il fait froid et humide. Et lui s'incruste dans la terre en regardant les étoiles. Il germe, s'enracine, pousse, 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 perce la terre, devient arbre. Il germe, s'enracine, pousse, pousse, se déploie, devient chêne, puissant. Il pousse, pousse, pousse. Il est chêne. Planté dans le sol. Et doucement, dans la brise, sous le soleil, l'arbre goûte ce moment du pur plaisir et de vie. Combien de temps peut vivre un chêne? Ça, il ne le sait pas. Mais maintenant, tout ça n'a plus aucune importance.
J'ai tout dit, tout dit, dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit.
J'ai chipé ce conte oral populaire, transcrit d'abord par l'écrivain Italo Calvino et proposé ensuite et revisité dans la grande oreille par la conteuse Frida Moron. Par ma bouche, par vos oreilles, il a repris souffle et vie. Je le remets sous la pierre pour le suivant.
Quand je serai vieille, je serai très très belle. J'aurai beaucoup d'amants. Toi, tu m'attendras patiemment. Quand on est vieux, on comprend tout. Quand on est vieux, on a le temps. Toutes mes rides, comme des petites flèches, perceront le cœur, les yeux de ce que je voudrais séduire. Tendra patiemment que vienne le dernier.
L'épopée de Gilgamesh est la plus ancienne épopée de l'humanité, une épopée de la Mésopotamie. La première version connue a été rédigée en acadien dans la Babylone du XVIIIe au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Écrite en caractères cunéiformes sur des tablettes d'argile, elle relate les aventures de Gilgamesh, roi d'Uruk. Peut-être un personnage ayant une réalité historique, mais en tout cas une figure héroïque et aussi une des divinités infernales de la Mésopotamie ancienne. Le récit commence par présenter Gilgamesh, roi de la cité d'Uruk, personnage sans égal par sa force et sa prestance, mais qui est tyrannique envers ses sujets, qui s'en plaignent aux grands dieux. Ceci suscite alors contre Gilgamesh un rival ou potentiel allié qui serait à même de juguler ses excès, Enkidu, qui est créé dans les espaces désertiques où il vit au milieu des bêtes sauvages. Gilgamesh, informé de la venue de ce personnage qui semble être son égal par sa force, dépêche une courtisane qui va l'initier à la civilisation en lui faisant découvrir la sexualité, puis les manières de manger, de boire et de se comporter comme un humain, le détachant ainsi du monde animal. Enkidu se rend ensuite à Uruk où, témoin des excès de Gilgamesh, il le défie. Le combat se solde par le respect mutuel des deux gaillards qui se lient d'amitié. Gilgamesh entraîne alors Enkidu dans une aventure vers la forêt des cèdres, où ils vont défier le gardien des lieux, le géant Humbaba, qu'ils parviennent à terrasser. De retour à Uruk, Gilgamesh reçoit les avances de la déesse Ishtar, mais il les rejette violemment, humilié. Celle-ci s'en plaint à son père, le dieu Anu, qui lui confie le taureau céleste qu'elle lâche dans la ville où il cause de grands dégâts, mais Gilgamesh et Enkidu parviennent à le tuer et commettent un nouvel affront envers la déesse. Les grands dieux décident alors de les punir et condamnent Enkidu à une mort douloureuse. Cela meurtrit profondément Gilgamesh, la perte de son précieux ami lui faisant prendre conscience de sa propre fragilité devant la mort.
Durant les jours qui suivent son rêve prémonitoire, Enkidu, le grand et cher ami de Gilgamesh, est de plus en plus malade. Puis il meurt. Et lorsque brilla le point du jour, Gilgamesh parla. « Pleurez-le, ô ancien, parmi les larges rues d'Uruk les enclos. Pleurez-le, passe étroite des régions montagneuses que nous avons escaladées ensemble. Lamente-le, campagne, comme si tu étais sa mère. Pleurez-le, cyprès et cèdre. » Pleurez-le, ours, hyène, panthère, tigre, cerf, guépard, lion, buffle, daim, bouquetin, grosses et petites bêtes sauvages. Pleurez-le, ô pasteur, pleurez-le, ô berger, pleurez-le, vous, ses frères, et dénouez pour lui votre chevelure. Moi aussi, je te pleure. Et c'est après les funérailles que Gilgamesh devient le grand homme qui ne voulait pas mourir. Sur son ami Enkidu, dit l'épopée, Gilgamesh pleurait amèrement en courant la steppe. « Devrais-je donc mourir moi aussi? Me faudra-t-il ressembler à Enkidu ?» L'angoisse m'est entrée au ventre. C'est par peur de la mort que je cours la steppe. Je me suis mis à craindre et redouter la mort et à vagabonder dans la steppe. Portant le drame d'Enkidu, mon ami, j'ai longuement vagabondé dans la steppe. Comment me taire? Comment demeurer quoi? Mon ami que je chérissais est redevenu argile. Enkidu, mon ami que je chérissais, est redevenu argile. Et moi, ne me faudra-t-il pas comme lui me coucher pour ne plus me relever jamais, jamais? Alors Gilgamesh décide de partir à la recherche de la vie sans fin. Je vais faire chemin et partir sans tarder rejoindre Utnapishti, qui, admis au grand conseil des dieux, a obtenu la vie sans fin. Je veux le questionner sur la manière d'éviter la mort afin de garder la vie sans fin.
Thank you. اسمعوني أبكي أنكيد كنادبتي بمرارة أنوح عليه الذي كان فأسي قوسي خنجري دراعي لباس فرحي سلوتي الوحيدة سرقني صاحبي حرمني إياه أنكيد أنكيد قهرنا الصعاب ارتقينا الجبال أمسكنا ثور السماء وقتلناه صرعنا خنبابا حارسا غابة صراك فأي نوم الآن قد صراك.
Gilgamesh va donc entamer une longue errance dans les espaces désertiques, longue errance qui le conduit jusqu'au bout du monde afin de rencontrer Utanapishti. Ce dernier lui raconte comment, après avoir survécu au déluge, il a obtenu des dieux l'immortalité pour lui-même et pour sa femme.
La troisième et la plus récente des versions mésopotamiennes du déluge est écrite en akkadien. Elle fait partie de la 11e tablette de la version de Ninive de l'épopée de Gilgamesh. Le dieu Enlil, l'initiateur du déluge, a décidé de pardonner aux survivants. Alors, dit Utanapishti à Gilgamesh, alors Enlil monta sur le bateau, me prit la main et me fit monter avec lui. Il fit aussi monter et s'agenouiller ma femme près de moi. Il nous toucha le front et debout entre nous nous bénit en ces termes. Utanapishti jusqu'ici n'était qu'un être humain. Désormais, lui et sa femme seront semblables à nous, les dieux. Mais ils demeureront au loin, à l'embouchure des fleuves, à l'extrême-orient du monde. À présent, Gilgamesh, dit Utanapishti, qui réunira de nouveau les dieux afin que pareillement tu obtiennes la vie sans fin que tu recherches? Et il ajoute que Gilgamesh obtiendra peut-être la vie sans fin s'il parvient à ne pas dormir 6 jours et 7 nuits d'affilée. Mais Gilgamesh était à peine assis, accroupi, que le sommeil l'enveloppa comme un brouillard. Et ainsi échoue la longue quête de Gilgamesh, parti à la recherche, en vain, de la vie sans fin. Que faire, Utanapishti, demande Gilgamesh, où me tourner, où que je porte mes pas, m'attend partout la mort. Cependant, sa femme s'adressa à Utanapishti le lointain. Gilgamesh est venu jusqu'ici à grand peine et fatigue. Ne lui donneras-tu pas quelque chose au moment où il rentre au pays? et Utanapishti dit « Gilgamesh, tu es venu jusqu'ici à grand-peine et fatigue. Que vais-je te donner au moment où tu rentres au pays ? Je vais te révéler un mystère et te communiquer un secret des dieux. Il s'agit d'une plante. Si tu arrives à t'en emparer, tu auras trouvé la vie prolongée. » Ce n'est pas la vie sans fin, c'est la vie prolongée. « Voici la plante, » dit Gilgamesh quand il la rapporte du fond de la mer. « Grâce à elle, on peut retrouver la vitalité. Je l'emporte à Uruk les Enclos, où pour en tester l'efficacité, j'en ferai absorber un vieillard, car son nom est le vieillard qui rajeunit. Puis j'en mangerai moi-même pour retrouver ma jeunesse. » Mais sur le chemin de retour qu'il emprunte avec Urshanabi le Nocher, un serpent dérobe la plante. Alors, dit l'épopée, alors Gilgamesh s'assit et pleura. Il s'en retourne mortel comme nous tous, à la cité d'Uruk, avec Urshanabi le Nocher. Et à la fin de la 11e tablette, l'épopée s'achève comme elle a commencé, par un chant à la gloire de la cité d'Uruk.
Dans le roman Jeunesse, La rivière à l'envers, paru en 2000, l'auteur Jean-Claude Mourlevin décline lui aussi ce motif de la quête de la vie sans fin. Tomek, un jeune garçon de 13 ans, y quitte son village pour échapper à l'ennui et poursuivre une jeune fille dont il est tombé amoureux. Sur les traces de la rivière Gjar, dont l'eau, dit-on, empêche de mourir. Au bout d'une longue et périlleuse quête, les deux enfants parviennent enfin à la vasque recherchée et toute remplie de cette eau tellement pure qu'elle en est presque immatérielle. Tous deux plongent leurs mains dans l'eau. Mais, dit le roman, ils ne burent pas. Ils se sentaient si fragiles soudain face à quelque chose d'immense et qui les dépassait. Et les mêmes questions graves traversaient leur tête d'enfant. Est-ce qu'on peut vraiment souhaiter ne jamais mourir ? N'est-ce pas justement parce que la vie s'achève un jour qu'elle nous est tellement précieuse ? Est-ce que l'idée de vivre éternellement n'est pas plus effrayante encore que celle de mourir ? Et si l'on ne meurt jamais, alors, quand reverra-t-on ceux que l'on aime et qui sont déjà morts ?
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes inconnus dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent. Au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tous ceux que je connais, tous ceux que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent des brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas finir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures. La mer à la montagne à la mer, les journaux en couleur, la fin de la douleur, tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi je vois la fin qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Pour cette émission, je suis allée puiser dans l'émission Sur les épaules de Darwin, pour laquelle Jean-Claude Amezen a consacré 2 opus à l'épopée de Gilgamesh, intitulée « La quête de la vie sans fin ». C'est une émission beaucoup plus dense que tous les petits fragments que je vous ai livrés. Elle est finement dense sur le sujet. Je vous invite très fort à aller l'écouter. J'ai également extrait 2 passages du Gilgamesh portés par le compositeur, chanteur franco-syrien Abed Azrieh. Vous retrouverez toutes les références aux musiques et extraits sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire des Marais pour la réalisation et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio-Olympe.